Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les maladies du spectre de la neuromyélite optique, ou NMOSD, et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Souad Mazari de Lyon, qui souffre de neuromyélite optique depuis plusieurs années et qui va nous éclairer sur son vécu de la maladie. Madame Mazari, bonjour.
Bonjour.
Madame Mazari, vous êtes une patiente atteinte de neuromyélite optique, on l'a dit, mais vous êtes également la créatrice et la présidente de la première et aujourd'hui la seule association de patients dans cette maladie, NMO France. Alors, Madame Mazari, ma première question est très simple, on va commencer par le début. Quand et comment est survenue votre maladie ?
Eh bien, c'est assez particulier de parler de maladie parce qu'à ce moment-là, je ne me suis jamais vraiment sentie malade. C'était surtout un symptôme et ce symptôme a débuté en 2013. J'ai eu un épisode de vomissement incessant avec le hoquet qui a nécessité des allers-retours à la fois chez le généraliste, les urgences pour récupérer de la force parce qu'évidemment je maigrissais à vue d'œil, le gynécologue qui à ce moment-là a évoqué une éventuelle grossesse puisque le test de grossesse est revenu positif mais finalement c'était un faux positif. Ensuite, j'ai atterri aussi en cardiologie, j'ai été aussi vue par un endocrinologue, mais ces vomissements n'ont pas eu de diagnostic. C'était voilà, il y a des vomissements, il y a le hoquet. On a attendu que ça s'arrête et j'ai repris le cours normal de ma vie au bout de 3 semaines, puisqu'après, il n'y avait pas eu de conséquences sur mon quotidien. Une fois que les vomissements s'étaient arrêtés, j'avais absolument plus rien. Ensuite, c'est en 2015, tout début septembre 2015, que j'ai ressenti de légers maux de tête. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de migraineuse à la base, donc ça m'a un petit peu interrogée. Et surtout quand j'ai commencé à ressentir des gênes visuels peu perceptibles, et ensuite un léger voile clair sur l'œil qui s'intensifiait chaque jour. Donc, sur cette semaine-là, les symptômes ayant démarré un lundi, très rapidement, les symptômes se sont intensifiés. Je commençais à avoir des gênes à la conduite et le maux de tête qui s'intensifiait. Et c'était l'occasion, le lundi suivant, de voir avec mon ophtalmologue ce qui se passait. Et quand évidemment, j'arrive chez l'ophtalmologue totalement insouciante, elle me fait faire plusieurs tests et elle me fait un champ visuel. Et à ce moment-là, je sens qu'elle s'inquiète, mais elle ne le montre pas complètement et me demande de me rendre immédiatement aux urgences ophtalmologiques. Et c'est elle-même qui m'y conduit, puisqu'elle termine son travail et refuse que je prenne mon véhicule. Et aux urgences, on m'a prescrit une ordonnance pour mettre des gouttes hydratantes dans les yeux et une ordonnance pour faire un IRM. Donc, j'ai pris rendez-vous pour un IRM. Les délais étaient de minimum 3 mois. Et donc, j'ai repris mon travail normalement avec des difficultés quand même à la conduite, de la gêne, à la lumière. J'avais la paupière qui commençait à tomber, à gonfler. Et c'est l'ophtalmologue qui me contacte et qui est surprise de savoir que je suis à nouveau sur mon lieu de travail. Donc, c'est elle qui s'est occupée de me prendre rendez-vous pour un IRM. Et à l'IRM, il y avait une inflammation du nerf optique. Et c'est vraiment grâce à cette ophtalmologue, c'est elle qui a organisé ma prise en charge hospitalière. Donc, elle a obtenu cette place en hospitalisation neurologique le vendredi. Je me suis rendue là-bas sans vraiment comprendre ce qui se passait. J'étais même plutôt étonnée d'atterrir dans un service neurologique. Je dis, mais j'ai juste mal à l'œil, je ne comprends pas pourquoi on m'intègre en neurologie. Donc, et là, je fais plusieurs tests, les tests classiques, ponction lombaire, tout était négatif, des tas de prises de sang. Et à ce moment-là, on commence les bolus de cortisone sur 3 jours. Et au bout d'une semaine, je sors de l'hôpital. Et malheureusement, je me suis, sans m'en rendre compte, c'est en frottant mon œil sain que je me suis rendu compte que l'œil droit, où il y avait une névrite optique, j'étais dans le noir. En cachant mon œil gauche, j'ai eu un choc.
Et à ce moment-là, quelles sont les hypothèses qui ont été évoquées ?
Malheureusement, il n'y a pas eu d'hypothèse. Et à ce moment-là, on m'a dit que c'était une simple névrite optique idiopathique. Donc, je ne connaissais pas du tout ce terme-là. Une névrite optique sans conséquences, éventuellement un virus qui est arrivé, qui n'a pas laissé de traces dans le sang, donc on ne sait pas. Il fallait que je me fasse à ce diagnostic, c'est-à-dire que perdre un œil, c'était pas une fatalité en soi, c'est beaucoup de personnes vivaient avec un œil et qu'il fallait que je fasse le deuil de cet œil.
Oui, donc une situation très très compliquée. Vous êtes resté combien de temps comme ça, sans diagnostic précis, satisfaisant finalement ?
Alors, j'ai eu du mal à me satisfaire de cette absence de diagnostic. J'ai bien essayé de consulter ailleurs, mais malheureusement, les réponses étaient que j'étais suivie par les meilleurs professeurs. Dans le service, on m'avait expliqué que des réunions multiprofessorales avaient été organisées, donc j'avais totalement confiance en la prise en charge. Donc, à partir du moment où on me dit que c'est idiopathique, j'ai repris le cours de ma vie. Malheureusement, au niveau de mon employeur, ça a été catastrophique aussi, puisqu'il estimait que j'avais pas de maladie, j'avais pas de diagnostic, il fallait que je reprenne mon travail de la même manière qu'avant. Je ne savais pas que je pouvais avoir une prise en charge pour atténuer ce déficit visuel sur un œil. Donc, bon an, mal an, je me suis organisée comme j'ai pu. J'ai malheureusement failli perdre la vie parce que je me suis mise en danger en conduisant. Et c'est seulement un an après où j'ai eu un nouveau symptôme, une paralysie du visage gauche qui a nécessité le contact direct avec l'équipe qui m'avait prise en charge, qui m'a adressé une nouvelle ordonnance pour faire encore un IRM. Et c'est à ce moment-là que sur l'IRM apparaît l'atteinte sur le tronc cérébral. Donc autant vous dire que le tronc cérébral, je n'avais jamais entendu parler de ce terme, je ne savais absolument pas ce que c'était. Et je suis reçue lors d'une consultation où on m'annonce que c'est une sclérose en plaques bénigne et que mes 30 prochaines années devraient très bien se passer et que l'équipe n'a aucune inquiétude justement sur le futur. J'avais passé un an sans diagnostic, ensuite après un IRM et une atteinte du tronc cérébral, finalement une sclérose en plaques, donc je n'arrivais pas à comprendre ni à me positionner sur un traitement pour une maladie que je ne connaissais absolument pas. Et lors de ce rendez-vous au réseau avec les infirmières, j'ai pu voir qu'il y avait une liste de neurologues. J'ai contacté l'un d'eux. Évidemment, le rendez-vous n'a pas pu se faire, avant 6 mois. Et lorsque j'ai vu cette neurologue dans le privé et que je lui ai apporté mon dossier, la première question, c'était « Est-ce que vous avez eu des vomissements avec le hoquet ?» Je lui ai dit « Mais oui, bien sûr. Mais lors de mon hospitalisation, cette hypothèse a été écartée. Ça n'avait rien à voir avec ma névrite. » Donc, mon cas a été étudié à nouveau par une autre équipe. Et c'est à ce moment-là, donc c'était environ vers février-mars 2017, que ce nouveau diagnostic tombe. On me demande de faire d'autres tests pour écarter d'autres maladies, comme la sarcoïdose. Et malheureusement, c'est en avril 2017, 3 jours après mon mariage, que je deviens aveugle.
Donc 4 ans pour avoir un diagnostic, c'est très très long. Une cécité à la fin. Donc aujourd'hui, quel est votre quotidien avec la maladie ?
Le quotidien avec la maladie, c'est quand on perd la vue, forcément, quand on a vu la moitié de sa vie, enfin, j'espère que je suis qu'à la moitié de ma vie, c'est d'apprendre à voir autrement, à apprendre à ne plus regarder, parce que quand on devient aveugle, ben, on continue tout de même à essayer de voir. Et finalement, être dans le noir, ça met un peu de distance avec tout ce qui a été vécu auparavant, ces traumatismes, ces non-dits, que ce soit l'employeur qui ne veut pas comprendre qu'on est entré dans un processus difficile, de symptômes qui empêchent de travailler, des soignants qui vous expliquent que vous n'avez rien, un interne qui a peur parce que il vous dit que vous êtes atteinte sur le tronc cérébral et vous lui posez la question, vous voyez la frayeur dans son regard. Donc, la cécité a été mon temps de pause pour à la fois mettre à distance ce que je venais de vivre et apprendre que j'étais entrée dans une maladie chronique qui avait un nom et avec un traitement. Donc aujourd'hui, mon quotidien, c'est réapprendre aussi à vivre en allant à l'école des aveugles. Pour apprivoiser mon environnement, apprivoiser les outils informatiques par des voice-overs, apprendre la locomotion, à me déplacer dans l'espace sans voir, avec apprendre à utiliser une canne. Donc voilà, donc ça n'a pas été de tout repos et c'est encore pas de tout repos encore aujourd'hui.
Et on l'a précisé en introduction, vous êtes très investi dans la mise en place de l'association Enemo France, la première et la seule association en France dédiée aux malades du spectre de neuromyélite optique. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette démarche et quels sont les objectifs de l'association ?
Alors, l'origine, c'est bien entendu tout ce que j'ai pu vivre et toutes les batailles que j'ai dû mener pour affronter des regards, affronter des un manque de communication autour de ce que je pouvais vivre. En 2017, quand j'ai rencontré le spécialiste de cette pathologie, le professeur Marinier, et qu'on a longuement échangé à ce sujet, ma première question a été « Mais est-ce qu'il existe une association ?» Et évidemment, non. Il m'a parlé des États-Unis avec la Guty Jackson Foundation qui avait un congrès annuel, un congrès de patients à Los Angeles et que c'était un petit peu la ressource pour cette maladie. Donc évidemment, ni une ni deux, j'ai décidé de me rendre aux États-Unis pour participer à ce congrès de patients. Et c'était un peu mon chemin de Compostelle, c'était partir à la découverte de cette maladie totalement étrangère dont j'avais jamais entendu parler, que personne ne connaissait, et j'avais besoin de toucher du doigt. Et j'ai échangé avec la fondatrice, enfin les fondateurs, donc Victoria Jackson et Bill Guty, sur leur parcours. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient commencé il y a 9 ans, et qu'il y a 9 ans, rien n'existait, et qu'aujourd'hui, ils rassemblaient chaque année 350 patients, une dizaine des meilleurs neurologues dans le monde entier qui venaient participer à ce congrès. Et je me suis sentie comme dans une bulle, je me suis sentie protégée dans cet endroit. Je remercie Victoria Jackson pour les messages qu'elle donne qui sont tellement rassurants. Et je suis repartie pleine de tout ça, de tout ce que j'avais reçu de leur part et ces échanges avec tous les patients, parce que je pensais vraiment être seule. Quand on m'a dit « c'est une maladie rare », j'ai cru que j'étais toute seule. Donc, une fois revenue, j'avais qu'une idée en tête, c'était participer à cet effort de cette reconnaissance et de recherche pour lutter contre cette maladie et éviter évidemment ce parcours chaotique que j'avais eu, que ce soit auprès de toutes les instances, de la sécurité sociale, de mon employeur qui ne comprenait pas que je ne revienne pas au travail. Et puis, C'est les objectifs de cette association, c'est ça, c'est de permettre aux malades d'entrer dans une bulle, dans ce confort, un cocon où on se sent un cadre sécur pour mieux appréhender la maladie. Parce qu'on sait que mieux on appréhende la maladie, mieux on la connaît, et plus on est acteur de sa santé, et mieux on vit la maladie, mieux on accepte les traitements. Et c'est apprendre vraiment, vraiment, l'association a pour but d'entourer et de partager toutes ces connaissances et d'être un petit peu la caisse de résonance, parce que c'est vrai que forcément, quand vous êtes allongé sur votre lit d'hôpital et qu'on vous explique que vous avez un professeur, un médecin, des internes qui débaroulent dans votre chambre et qu'on vous annonce un diagnostic, vous n'êtes absolument pas prêt. J'étais absolument pas prête à entendre tout ça. Et c'est bien là le problème, c'est apporter... j'aurais aimé avoir une autre oreille que celle des soignants, une caisse de résonance, quelqu'un comme moi qui venait de connaître ce parcours pour que je puisse entendre et qui puisse m'expliquer la maladie avec ses mots et pas avec les mots scientifiques des soignants, et même s'ils essayent le tout pour le tout. Et voilà, c'est cette difficulté-là. On est sur son lit d'hôpital, et comment on entend ce que le soignant nous annonce? Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'ils sont sortis de la chambre et qu'on se retrouve face à une pathologie déconcertante qui peut être... dont le pronostic vital est engagé. On veut être dans la construction pour apporter le maximum au bien-être du malade. Et ce partage d'expérience aujourd'hui se fait beaucoup au travers d'un groupe Facebook qui s'appelle le Spectre de la NMOSD Antimog Neuromyélite Optique de Devic, où chacun vient se libérer de que ce soit un nouveau diagnostic ou une maladie qui est présente depuis longtemps. Et c'est un groupe qui apporte beaucoup de soutien et beaucoup d'amour. Et ça, c'est important dans la maladie.
Eh bien, merci infiniment, Madame Mazari, pour votre témoignage poignant qui nous a permis de mieux connaître la neuromyélite optique. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre compte Instagram, Rare à l'écoute, ou notre site internet, www.rarealécoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pourrez retrouver les précédents épisodes consacrés à la neuromyélite optique. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur notre chaîne pour évoquer une nouvelle maladie rare. À très vite !